présence je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, dis mon sauveur.
Prendre place, je vois que c'est fait. Est-ce que c'est une bonne journée aujourd'hui? Est-ce que ça va être une journée magnifique? Est-ce que ça va être un bon culte? Hein? Vous vous demandez, moi aussi. Alors, bienvenue à chacun et bienvenue aussi à ceux qui sont derrière ou devant l'écran, je ne sais pas comment on dit, devant leur télévision, devant leur PC, leur tablette. Soyez aussi les bienvenus ce matin. Je voulais savoir s'il y en a qui avaient débarqué il y a moins de 6 mois dans cette communauté. Est-ce que vous pouvez lever la main, moins de 6 mois? Personne? 3 ans? Ah, il y en a quand même, hein, 3 ans. 15 ans? Ok, il y en a. Et puis après, je ne demande pas parce que c'est les dinosaures. De quoi va-t-on parler ce matin? Et qu'est-ce que vous allez dire à midi si vous avez des enfants ou votre époux, votre épouse qui n'est pas venue? Qu'est-ce que vous allez leur dire à midi sur le message? Est-ce que vous allez leur dire, il a parlé du péché, et puis qu'est-ce qu'il a dit? Il était plutôt contre. Est-ce que c'est ça que vous allez retenir? Moi, je vous invite à bien écouter ce qui sera proposé ce matin. Alors, ce matin, on va parler d'amour. D'amour, c'est un peu normal dans une église. On va parler d'amour et de savoir ce que Jésus nous recommande comme commandement. Quels sont les commandements les plus importants? Et c'est le thème de ce matin. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, permets-nous d'être attentifs à ton message ce matin, que nous puissions intégrer ce qui sera partagé, chanté et dit. Que ce soit vraiment un autre cœur qui s'ouvre à ta parole. Seigneur, viens bénir chacun, que ta présence soit visible dans nos cœurs, que nous puissions ressentir ta visitation, ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour cette occasion de célébrer un culte. Merci pour ta présence. Amen.
À chanter, je vous invite à chanter avec nous, Seigneur, à quel autre, qu'on puisse vraiment se recentrer, savoir, se rappeler que c'est lui qui est au centre de nos vies, c'est vers lui que nous devons tourner nos regards dans la détresse, dans la joie, dans n'importe quelle situation de nos vies, parce que c'est à lui que nous voulons ressembler. Pour ce temps de louange, vous pouvez rester assis, vous lever à votre guise. Je vous invite à vraiment chanter de tout votre cœur.
Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? La vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Père, je désire voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta
chanter un dernier chant qui nous rappelle de nous mettre à l'écoute de Dieu. On a beaucoup tendance à beaucoup parler, moi le premier. Et dans nos prières, on laisse rarement le temps à Dieu. Je laisse rarement le temps à Dieu de s'exprimer, de me dire ce qu'il veut pour nous, pour nos vies. Et ce chant nous exhorte, nous rappelle qu'il faut s'attendre à lui à chaque instant, simplement de nous mettre à son écoute et de le chanter.
Entends-tu les coups qui frappent sur ton cœur? Entends-tu les coups qu'arrivent bientôt l'heure? Il t'attend à l'orée de ton âme. Il te tend les bras, il te réclame. Viens au secours de mon peu de foi. Viens mon amour, j'ai tant besoin de toi. Tu es lumière éclatant dans ta gloire. Par ton don magnifique, je connais. Qui appelles-tu au moment de la douleur? Qui répond lorsque la vie perd ses couleurs? Reviens mon âme adorer le Seigneur. Reviens l'embrasser, lui qui console. Je connais l'espoir. Viens au secours de mon peu de foi. Viens mon amour, j'ai tant besoin de toi. Tu es l'unique, éclatant dans ta gloire. Par ton don magnifique, je connais. Sur le rivage rebelle de mes nuits, éclat puissant à travers l'orage de ma vie. L'amour cloué sur la boîte de l'homme malfaiteur, ce qu'on vouait à la croix pour tes serviteurs. L'espoir sur le rivage rebelle de mes nuits, éclat puissant à travers l'orage de ma vie. L'amour sur la bois tel un malfaiteur. Secours-vous et à la croix pour tes serviteurs.
Amen, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, des ouvriers d'amour. Je te prie de nous mettre à l'écoute du message que Philippe va nous apporter. Je te prie de nous préparer nos cœurs à entendre ton message. Je te prie pour Philippe que tu puisses poser sa main sur lui et que ce matin nous puissions tous faire ta volonté, Seigneur. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune. Vous êtes belles et beaux, même avec des masques. Je vais me montrer un peu curieux ce matin, pour commencer. Alors peut-être que je vais m'adresser qu'aux dinosaures, hein, je ne sais pas, mais j'ai quand même quelque espoir de ne pas être le seul avec cette interrogation, qui est la suivante. Que regardez-vous à la télé ? Ou qu'écoutez-vous à la radio ? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein, allez-y. On va faire un peu comme au caté. Qu'est-ce que vous regardez ? Ah, les décodeurs, ça c'est la radio, ça, n'est-ce pas ? Radio Suisse romande, c'est en fin de matinée. T'as déjà posé une colle au décodeur ? Ou ça va venir peut-être ? Les décodeurs.
Quelques nouvelles.
Quelques nouvelles, quoi, les infos ? Les plus belles nouvelles, alors faut les chercher. Hein. D'accord. Ah. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut juste éteindre en fait quand ça nous submerge. Qu'est-ce que vous regardez à la télé ? C'est dans l'air. Ah, qu'est-ce que tu aimes dans C'est dans l'air, André ? Les thèmes actuels, ouais. Alors, je crois que c'est sur France 5. Et alors, raconte-nous un peu le concept de l'émission « C'est dans l'air ».
Non, c'est de prendre un thème actuel du jour, un seul, et puis il y a un meneur de débat, et puis 4 ou 5 personnes qui peut-être connaissent quelque chose du sujet.
Ok. C'est une des émissions que j'apprécie aussi, qui est en plus... rediffusée en fin de journée, on peut la voir quand on est un peu couche-tard. Et effectivement, c'est intéressant, on a généralement donc un sujet d'actualité, quelqu'un qui médie le débat, et puis voilà, des intervenants hein, qui discutent. Qu'est-ce que vous regardez d'autre à la télé ? Ah, passe-moi les jumelles. Hein, quand on ne peut pas s'évader, des fois, c'est ce qu'il faut faire. Hein, juste le vendredi soir, il faudrait changer la date du caté pour que je puisse regarder « Passe-moi les jumelles ». Mais passe-moi les jumelles, ça nous permet de nous évader. Merci.
C'est pas sorcier.
Ah, c'est pas sorcier qui revient en force. Pardon ?
Et Brouhaha.
Alors ça, je connais pas. C'est sur la RTS aussi ?
Oui.
Brouhaha. Ah ouais. Denise. Caravane FM. Extraordinaire, Caravane FM. Sur la RTS, alors je crois qu'il y a 2 saisons dans l'année. Hein. Il passe de lieu en lieu. Ouais. 52, alors ça je connais. 52, ah, 52 minutes, les deux Vincent. D'accord. Ah, c'est intéressant, il y a un hiatus générationnel.
La question pour un champion.
Ça existe encore, question pour un champion. Purée. Question pour un champion. Ok. Ah, question pour un champion. J'ai mon intro presque. On ne s'est pas calé, hein, mais on va. Ouais, intéressant. Question pour un champion.
Slam.
Ouch. Slam.
Slam.
Christiane, raconte-moi, c'est quoi ça ? D'accord. RTS ? France 3. D'accord. Pardon, qui perd gagne ? C'est un jeu aussi, hein. Autre chose. Les documentaires. Ah ouais, ouais. Juste pour se distraire le soir. Ah ouais. Échappée belle. Ah ouais. Là aussi, ça nous fait rêver. Hein. Les carnets de Julie, ça nous fait rêver aussi. Bon, ben, je vois, ça me rassure, tout le monde n'est pas devant sa Bible toute la journée, quoi. Jonas. Temps présent. Ok, merci, temps présent. Ouais. Très bonne émission d'actualité sur la RTS depuis des décennies, je crois. Ouais. Autre chose ?
TTC.
TTC, ok. Ah ouais. Toute taxe comprise sur la RTS aussi. 28 minutes, ça c'est sur Arte. Tu nous expliques en deux mots aussi le concept ? Presque. Mais vas-y Jean-Yves, explique-nous le concept de 28 minutes. Wow. Comment on appelle le concept un animateur, un pour, un contre ? Un débat. Un débat. C'est peut-être les choses que j'aime le plus, moi, à la télé ou à la radio, c'est les débats. Parce qu'à la télé, il n'y a pas que des séries télévisées. De temps en temps, il y a des bonnes choses, mais des fois, c'est un peu médiocre quand même. Il n'y a pas que des infos qui peuvent parfois nous... Franchement, nous submerger, hein. Puis c'est pas simple de faire le tri, on entend à peu près tout et son contraire. Et des fois, quand on a tout et son contraire, c'est intéressant d'avoir un débat comme 28 minutes, comme mise au point, comme les grands débats avant une votation ou des élections. Nos amis américains ont leur lot actuellement de débats. Puis il faut croire que les téléspectateurs aiment les débats. Sinon, les chaînes ne les programmeraient probablement pas en aussi grand nombre. Qu'est-ce qui plaît tellement dans le débat ? Ce qui plaît dans le débat, il me semble que c'est cette espèce de combat où chacun s'efforce de poser à l'autre une question à laquelle l'autre ne va pas savoir répondre. Le mettre en difficulté, l'acculer, le pousser dans le coin où il va devoir montrer ce qu'il a dans le ventre. On aime les questions percutantes, on aime les questions bien faites. Vous n'avez pas le monopole de la... Pardon ? Vous vous rappelez ce débat entre... C'était François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, 81, sauf erreur. Il y a des petites phrases qui restent. On guette cette petite phrase qui va faire mouche, qui va rester dans l'histoire, et on sait que les débats deviennent de plus en plus vifs lorsqu'une élection ou lorsqu'une votation approche. On l'a vécu il y a encore quelques jours, hein, avant les grandes élections fédérales et cantonales. Et puis quand j'ouvre ma Bible, je trouve que Jésus était assez souvent au centre d'échanges de ce genre, au centre de débats de plus en plus vifs, alors que le dénouement de son ministère approchait. On lui a tendu un piège au sujet du paiement de l'impôt à César. On a essayé de le coincer sur la question de la résurrection. Et à chaque fois, Jésus a brillamment répondu à ses adversaires. À chaque fois, il a confondu ses contradicteurs. Et on va lire la suite dans Marc 12, 28 à 34. Vous êtes prêts ? Marc 12, 28 à 34.
Un spécialiste des Écritures les avait entendus discuter. Il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Vous savez ce que c'est, les Sadducéens ? Juste préciser que c'est un des quatre partis ou groupes du judaïsme. Il y avait les pharisiens, les esséniens et puis les zélotes. Alors, juste préciser que les Sadducéens étaient responsables du temple, donc c'était des gens qui connaissaient bien. C'était un peu des collabos avec les Romains. Et puis, ils ne croyaient pas à la résurrection. Si vous vous rappelez aussi comment Paul a mis une émeute dans une assemblée. Donc, il vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le spécialiste des Écritures dit, « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Dieu est unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, est plus important que toutes les offrandes et les sacrifices d'animaux. » Jésus vit qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus lui poser de questions.
Fameux débatteur, Jésus, hein ? Personne n'osait plus lui poser de questions. Qui est cet homme qui vient devant Jésus ? Qu'est-ce que la Bible notifie à son sujet ? C'est un spécialiste des Écritures, spécialiste de la loi. Si vous avez sur votre tablette ou votre Bible papier une version un petit peu plus ancienne, vous avez un autre mot peut-être ? Un scribe. Un scribe. C'est une bonne situation, ça ? Scribe ? Il faut répondre à cette question et je vais emprunter la réponse à un film de cinéma. Basique, bien que Mission Cléopâtre. C'est une bonne situation, ça, scribe ? Alors, vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, eh bien, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi... Au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est le goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait ? Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Excusez-moi cette incartade culturelle dans le monde d'Astérix et Obélix, mais je trouve que la réponse du scribe d'Astérix et Obélix met en perspective le rapport entre le scribe de l'Évangile selon Marc et la réponse de Jésus. Un scribe, donc. On pourrait imaginer un écrivain public, ou un homme qui recopiait la Bible mot à mot. Mais c'est bien plus. C'est un spécialiste de la loi. Quelle loi ? la Constitution, le Code des obligations, le Code civil. Quelle loi ? De quelle loi cet homme est-il le spécialiste ? Le pro des pros ? De la Torah, alors là on est dans un mot hébreu, puis l'hébreu pour moi c'est du chinois. C'est quoi la Torah ? La loi de Dieu. Donc nous avons un scribe qui vient devant Jésus, un spécialiste de la loi, un docteur en droit, et qui vient poser une question à Jésus. Quel est le commandement le plus important de tous, Jésus ? Moi, la question, elle me laisse perplexe. Voilà un homme qui passe sa vie à étudier les Écritures, qui passe sa vie à les enseigner. Voilà un homme qui connaît par cœur, sur le bout des doigts, les 613 commandements de la Torah. Un homme qui a dû s'entendre poser 100 fois cette question, quel est le plus grand commandement ? Quand il faisait ses études, c'est la question qui sous-entendait toutes ses études, quel est le plus grand commandement ? Et quand il a eu des étudiants, ce spécialiste de la loi, ces mêmes étudiants lui ont posé 1000 fois la question, quel est le plus grand commandement ? Une question d'école. Une question à tirer au sort quand on va passer ses oraux. Quel est le commandement le plus important de tous ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette question ? Je vois plusieurs explications possibles. La première, c'est que l'évangile de Matthieu, qui rapporte le même débat, dit que la question est là pour mettre Jésus à l'épreuve. Le commentaire de Matthieu sur cet épisode, c'est que la question est posée pour mettre Jésus à l'épreuve. C'est une sorte de piège tendu par un groupe de pharisiens à la suite des autres questions pièges sur l'impôt à César, sur la résurrection. Quel est le commandement le plus important de tous ? Les différentes écoles juives étaient très divisées sur cette question. Pour certaines de ces écoles, le commandement le plus important de tous, c'est le sabbat. Pour d'autres, le commandement le plus important de tous, c'est la circoncision. Pour d'autres écoles, c'est toute une série de commandements rituels qui régissent le rapport entre le croyant et Dieu. Quel est le plus important de tous ? Et peut-être que là, Jésus va se compromettre en s'alignant sur l'une ou l'autre de ces écoles, en ralliant l'une ou l'autre elle. Et on l'accuserait alors de favoriser un courant plutôt qu'un autre. Ah ben ouais, Jésus est de notre côté. Peut-être qu'il va privilégier un commandement au détriment des autres. Et alors on l'accuserait d'abolir la loi, de ramollir la loi. Ou alors peut-être qu'il va dévoiler son ignorance, parce que Jésus n'a pas fait d'études. Mais une question piège, c'est aussi quelque chose qui permet de voir les qualités d'un enseignant. Quand je donnais des cours à l'Institut biblique de Genève, ou même à la fin d'un culte, après une prédication, j'ai toujours aimé le temps de questions. J'aime le défi. J'aime l'occasion que cela donne d'approfondir un point ou l'autre. Et avec Célina, on s'est dit que ce serait bien d'y revenir de temps en temps, après une prédication le dimanche matin, faire un peu plus court et puis se donner l'occasion d'un temps de questions-réponses. Une question donc pour mettre Jésus à l'épreuve, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ou alors, deuxième explication, l'homme connaît le point de vue de ses professeurs. L'homme connaît le point de vue de ses propres collègues. Et il veut maintenant, très honnêtement, savoir ce qu'en pense Jésus. Que dis-tu, Jésus ? Est-ce que tu es aussi calé que mes maîtres ? Qui es-tu, Jésus ? Qu'est-ce que toi, t'as dans le ventre ? C'est quoi qui est au cœur de ce que tu crois, Jésus ? Je veux me faire une opinion, honnêtement, j'ai besoin de te connaître. C'est une seconde option. Une troisième option, c'est que nous avons peut-être affaire avec un homme qui, au fond de lui-même, trouve que 613 commandements, ça commence à faire un peu beaucoup. Un homme qui ne sait plus où donner de la tête. Un homme qui voudrait se fixer des priorités spirituelles et qui se trouve noyé dans la masse de choses à faire et à ne pas faire, incapable d'y faire face, il est dans le brouillard. Peut-être que toutes ces explications sont valables, peut-être qu'elles sont toutes mêlées. Le groupe qui s'oppose à Jésus veut peut-être le mettre dans l'embarras et notre spécialiste devient leur porte-parole, peut-être que c'est ça. Mais en même temps, au fond de lui-même, il veut y voir plus clair. Il est peut-être au carrefour de sa vie. Il est peut-être devant une décision importante. Et moi, je vous suggère que nous nous retrouvons souvent en lui. Parfois dans la provocation, parfois dans le désir de mieux connaître Jésus, vraiment. De mieux connaître sa parole, vraiment. Et puis parfois, on se retrouve simplement à un carrefour dans nos vies. Moi, ça m'arrive plus souvent que je pourrais le dire. Des moments où on est un peu déstabilisé, où on se pose des questions, où on sent qu'il faudrait se recalibrer. La réponse de Jésus, maintenant. Pour le Suisse lambda, quel est le commandement le plus important ? D'après une enquête de Die Welt, les commandements les plus souvent cités sont « Tu ne tueras point » et « Tu ne voleras point ». Le Suisse lambda. Et puis pour les Suisses qui ont fait un peu de caté, puis si vous n'en avez pas fait, puis que vous avez moins de 15 ans, venez nous rejoindre le vendredi soir tous les 15 jours, c'est le top. Mais pour le Suisse de base, qui a fait un peu de caté, la réponse la plus souvent donnée, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cool. Mais voilà, pour Jésus, qui est quand même la marque référence, il y a un truc qui vient avant tout ça. Avant pas tuer, avant pas voler et avant aimer son prochain comme soi-même. Jésus dit, verset 29 de notre texte, « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le Dieu unique. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Avant le respect du sabbat, avant la loi sur les holocaustes et les sacrifices, avant la circoncision, avant l'amour du prochain, il faut se préoccuper de ce qui fait le moteur de notre vie. Il faut aller au-delà de l'étiquette. Pourquoi pratiquer une religion ? Pourquoi aimer son prochain ? Il faut, dit Jésus, que toutes ces choses qui sont valables, mais pour qu'elles soient valables, pour qu'elles fassent sens, il faut que toutes ces choses découlent de votre amour pour Dieu. C'est le point de départ. Sans l'amour pour Dieu, le reste n'a pas de sens. Sans l'amour pour Dieu, le reste n'a aucune raison d'être. c'est de la religion. Voilà qui met les pendules à l'heure. La vie d'un croyant ne se résume pas à ce qu'il fait. La vie d'une croyante ne se résume pas à ce qu'elle fait, aussi noble que ce soit. La vie du croyant, la vie de la croyante, c'est d'abord une relation d'amour. Une relation d'amour qui mobilise la volonté, les sentiments, la pensée, oui, oui, la pensée, pensée juste, et l'énergie. La vie d'un croyant trouve ses sources et ses ressources dans la relation avec Dieu. Nous qui courons tout le temps, nous qui avons nos agendas surblindés, quelle place laissons-nous à nos relations? Et en particulier, quelle place laissons-nous à notre relation avec Dieu? Il y a quelques jours, en accord avec le conseil, j'ai fait un relevé de mes heures mensuelles. Christiane m'a fait un graphique formidable. Puis j'ai regardé ce graphique, puis j'ai eu un peu honte. Parce que j'ai vu que je courais d'un truc à l'autre, et c'est génial d'être dans l'activité. Moi, je n'arriverais pas à ne pas être en activité. Puis j'ai vu qu'à un certain moment dans ma vie, le problème, c'était un problème de relation. D'abord avec Dieu. J'ai plein de temps pour faire plein de trucs, puis j'ai un peu de peine d'aller à la source. Puis je dois recalibrer ça. Parce que sinon, à court terme, je serais disqualifié comme pasteur, mais comme chrétien aussi. Pour bâtir des relations qui tiennent, il faut du temps. Il faut prendre du temps, en particulier au début d'une relation. Il faut ensuite se donner du temps pour entretenir, pour développer la relation. Demandez à des jeunes qui sortent ensemble si ce n'est pas vrai. Demandez aux couples qui tiennent si ce n'est pas vrai. Du temps pour apprendre à se connaître. Du temps pour entretenir et développer la relation. Et nous qui sommes fatigués, pressés, hyper sollicités, nous voyons la qualité de nos relations s'amenuiser, s'appauvrir et elles deviennent superficielles. Et Dieu, est-ce qu'il est le dernier servi ou le premier? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu, et parce qu'il est unique. Et parce qu'il est Dieu, il est digne d'un amour sans partage, sans réserve. Et là, notre spécialiste de la loi, il a compris. Plus important que tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est notre relation avec Dieu, qui doit être une relation d'amour. À nous de trouver les rendez-vous pour que cet amour se maintienne au fil du temps et des saisons. Et on pourrait en parler des heures. Et si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Célina ou avec moi. Comment on fait pour maintenir la relation avec Dieu au fil des saisons? Priorité à Dieu. Tout est dit. Sauf que malheureusement, la réponse de Jésus, elle a deux volets. Enfin, malheureusement, vous comprenez quoi. C'est Jésus. Et puis le deuxième volet dit « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais c'est de la triche. On demande à Jésus quel est le plus grand commandement et puis lui, il trouve le moyen d'en citer deux. C'est de la triche. Enfin, pas vraiment. Parce qu'il parle bien d'un premier commandement et d'un second. Donc il répond à la question, mais il voudrait éviter une méprise, quelque chose qui ferait qu'on marche sur une seule jambe. Le prochain, dans l'enseignement de Jésus, ce n'est pas seulement un membre de la famille, ce n'est pas seulement un frère ou une sœur dans la foi, c'est aussi un pauvre, c'est aussi un étranger, et c'est même, dit Jésus, un ennemi, ce qui me met tellement mal à l'aise. Qu'est-ce que l'amour pour Dieu qui ne se manifesterait pas dans l'amour du prochain? Ce serait quoi un amour pour Dieu dont les hommes seraient exclus? 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. J'aimerais que des textes comme ça ne soient pas dans ma Bible. Je serais un petit peu plus confortable avec les arrangements que je fais dans ma propre vie. Mais c'est là. Et moi, le premier, je suis repris par ça. Est-ce qu'il est possible d'être religieux tout en ayant de la haine? Oui, c'est possible. Et la langue française a beaucoup de mots pour désigner les gens qui pratiquent une religion sans aimer. Des hypocrites, des bigots, des cafards, des cagots, des calotins, des tartuffes, des grenouilles de bénitier, des fondamentalistes. Vous savez un truc, le monde ne nous accusera jamais de ne pas connaître assez notre Bible. Jamais. Mais il sera impitoyable, le monde, si notre vie ne reflète pas l'amour du Christ. C'est parfois injuste, et ça m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est que c'est parfois fondé. Je l'illustre avec trois exemples. Mon premier exemple, c'est la haine. Est-ce qu'il arrive que dans notre entourage, il y ait des gens dont la seule présence, le seul nom, le seul prénom nous fait raidir intérieurement? Des gens à qui on en veut depuis des années? Des gens avec qui nous sommes en conflit ouvert, sans que nous ayons jamais fait quoi que ce soit pour essayer de le régler? Je ne parle pas de ces choses qu'on a essayé de régler. Et le conflit n'est pas forcément un péché, parce que Jésus, il était au centre de quantité de conflits. Mais Dieu connaît notre cœur. Et si on se bat avec un problème de ce genre, il me semble qu'il y a un seul remède souverain que Jésus a lui-même enseigné, c'est de prier pour nos ennemis. C'est le seul que je m'autorise quand je sens dans ma vie, et c'est arrivé, de la haine pour quelqu'un. Un deuxième exemple où le monde nous regarde, c'est l'aide pratique. On est au courant de ces situations où il faudrait intervenir. Dans ta famille, dans ton entourage, tu connais des gens qui ont besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire, c'est évident, on ne peut pas tout faire. Mais nous, par exemple, juste en Église, par exemple avec la mission pour les pays de l'Est, notre Église peut venir en aide aux enfants défavorisés en Roumanie, en Moldavie. Tout simple. Mais quand tu regardes le monde, qu'est-ce que tu fais? Et puis un troisième exemple, c'est le témoignage. Et je sais que c'est délicat. Pour moi, c'est compliqué toutes les semaines. Mais je me pose la question, est-ce que j'aime les gens au point de vouloir leur faire connaître Christ? Au point d'accepter de temps en temps de passer pour un fou, ou d'être incompris, ou d'être critiqué, au pire, d'être rejeté. Si tu aimes Dieu, est-ce une souffrance pour toi de constater que d'autres ne l'aiment pas? Est-ce que c'est une souffrance pour toi? Bon, on a commencé avec cet homme qui pose une question. Et cela nous a permis aussi de nous poser des questions, j'espère, à nous-mêmes. spécialiste de la loi, ce n'est pas un pinailleur. Quand Jésus dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il aurait pu dire, comme quelqu'un avant lui, « ok, puis c'est qui mon prochain ?» Il serait parti dans d'interminables définitions et puis il aurait esquivé l'essentiel. « Tu aimeras, point barre, tu aimeras. » Mais voilà, notre homme a compris. Verset 32, il dit « très bien, maître ». Il acquiesce, il est satisfait de la réponse de Jésus. Il la reformule. Il est ok, il a compris intellectuellement. Il est aligné sur la réponse de Jésus. Il connaît son catéchisme sur le bout des doigts. Et Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ça calme. Tu n'es pas loin. Qu'est-ce qui lui manque alors ? Il est d'accord avec la réponse de Jésus. Il est d'accord avec les deux commandements. Il sait que ceux-là sont bien plus importants que tous les rites religieux qu'il peut accomplir. On voit bien qu'il est sincère. On voit que c'est un homme de cœur. Qu'est-ce qui lui manque ? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Eh bien, c'est qu'au centre du royaume de Dieu, il y a un roi. Et que ce roi, c'est Jésus. Et que Jésus, soit il est roi de tout, soit il n'est pas roi du tout. Pour l'instant, notre homme commence donc à s'affranchir de certaines traditions religieuses. Il commence à intégrer des trucs essentiels, mais apparemment, il n'a pas encore pris sur lui l'autorité du roi Jésus. Il est pour l'instant toujours du côté de ses collègues, d'une certaine bien-pensance. Il est toujours un homme bien inséré dans la société. Il est toujours promis un bel avenir. Le jour où il acceptera Jésus comme son roi, il prendra le risque, lui, de tout perdre et de tout gagner. Vous n'entendez pas dans ce passage cet appel qui résonne à travers les âges. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Tu n'es peut-être pas loin, mais fais le pas, entre dans le royaume, prends ma royauté. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et voilà que notre récit, et je conclue ici, il reste en l'air comme ça. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne ne sait aujourd'hui quel était le choix final qu'a fait notre spécialiste de la loi. Mais toi, de ce côté-ci de l'histoire, avec son histoire, avec ce que tu sais de Dieu, avec ce que tu sais du Christ, toi, quel choix tu fais ? Ça, c'est la question. Quel choix tu fais ce matin ? D'aimer Dieu de tout ton cœur, même imparfaitement, comme tu aimes imparfaitement la personne que tu aimes le plus au monde. D'aimer Dieu de tout ton cœur. D'aimer ton prochain comme toi-même. C'est super compliqué, bienvenue dans l'aventure. On va essayer d'avancer ensemble dans l'amour du prochain. Mais est-ce que tu fais ce choix ? Ou est-ce que tu ferais le choix d'entrer dans le royaume ? Parce que tu n'es pas loin, mais tu n'es pas dedans. C'est quoi le choix que tu veux faire ce matin ? Et si ce temps, ce matin, te permettait, nous permettait de prendre une décision ? Parce que je pense que plus que jamais, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Quel choix tu fais ? Amen.
J'invite avec le prochain chant à rester peut-être assis et à méditer ce que Philippe vient de nous dire, à pouvoir chanter aussi ensemble ou simplement lire les paroles, réfléchir un petit peu comment ça résonne dans nos vies à chacun d'entre nous.
Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 1 Jean 3, versets 16 à 20.
Seigneur, j'aimerais te remercier pour le message de Philippe ce matin. Et j'aimerais te prier pour que je ne dévie pas de l'essentiel. Que je me rappelle que nous nous rappelons que dans tout le rituel de notre vie, dans tout le rituel de ma vie, l'amour doit être au centre. Seigneur, aide-moi à voir ce que je ne vois pas. Aide-moi à aimer en œuvre et en vérité, et non pas à œuvrer religieusement. Donne-moi la force de faire la place dans mon agenda qui ne t'en laisse pas. S'il te plaît, aide-moi à aimer les autres comme je m'aime moi-même et à voir un frère dans l'homme ou la femme en détresse, ou dans celle ou celui pour qui j'ai de la répulsion et que toi, tu aimes, Seigneur. J'aimerais vous inviter à prier ensemble, qu'on puisse prendre un temps d'édification, qu'on simplement sentez-vous libre de prier à voix haute ou dans votre cœur.
Cet ami qui est en train de mourir sans toi, dans notre cas.
Seigneur, merci pour ton action dans nos vies. Et je te prie, Seigneur, de venir dans nos vies, de venir dans ma vie, dans celle de mes frères et sœurs, et de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et j'aimerais vous inviter pour les deux chants qui concluent à vous lever non comme un geste de religiosité ou de rituel, mais comme un geste qui dit à Dieu, oui, je veux t'aimer en esprit, en vérité. Je veux méditer ta parole, je veux trouver du temps dans mon agenda pour toi, Seigneur, pour mes relations. Et aimer ce que je n'aime pas comme toi tu les aimes.
Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi, genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs simples. Et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi ton œuvre, Père. Et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi ton œuvre, Père. Transforme-nous pour ton royaume. Toi, genoux, nous te chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Et change mon cœur, gravé de pierre. Contre ton nouveau cœur de chair, éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi ton œuvre, Père, et change mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair, éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi.
Change nos cœurs.
Et change nos cœurs, gravés de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi ton œuvre, Père.
Et je vous invite à chanter un dernier chant qui proclame qu'on veut suivre Jésus toute notre vie parce qu'il est mort pour nous. Nous voulons vivre pour lui.
Dans la joie,
quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde.
Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai.
Confiant dans la foi et profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai.
Debout pour les annonces et pour la bénédiction. Que le Père éternel qui m'a créé et adopté comme son enfant bien-aimé me fasse découvrir l'amour qu'il me porte toujours. Que Jésus, le Seigneur et Sauveur de ma vie, me fasse entrer dans des chemins nouveaux de guérison, de libération et me donne sa paix. Que l'Esprit Saint qui habite mon cœur me transforme et fasse jaillir en moi la source de la libération intérieure. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde la même paix, de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous. Bon dimanche, mais ce n'est pas fini, il y a encore les annonces. Vous pouvez vous asseoir. Première annonce, c'est que, bien sûr, il faut sortir de la grande salle le plus vite possible, comme il fait beau, on peut se retrouver dehors. Et les enfants ne sont pas en bas, mais sont dans la chapelle. Je vous rappelle qu'il y avait une école du dimanche spéciale pour eux avec Jean Bachet. Donc il faudra aller les chercher assez rapidement à la chapelle à côté.
Bonjour. Alors, les activités cette semaine, il n'y en a pas énormément. Alors, jeudi soir, il y aura la séance de la régionale de la FRAE, donc les quatre conseils des quatre églises FRAE de Genève se retrouvent. Donc, ce sera jeudi soir à l'Espérance. Philippe sera en vacances de vendredi 16 jusqu'au jeudi 22 inclus. Philippe, on te souhaite un bon temps de ressourcement. Et dimanche prochain, il y aura un échange de chairs. Donc Célina sera à Coligny et le couple Moret, je ne sais pas lequel des deux prêchera, mais c'est le couple Moret qui sera chez nous. Il y a donc l'action des paquets de Noël qui est reconduite cette année, sous une forme un peu différente. Donc, alors plutôt qu'il y ait des petits tickets à prendre, il y a des boîtes dans lesquelles vous pouvez déposer de l'argent. Et avec cet argent, Anne-Marie Wenger et Annick Dubos se chargeront d'acheter tout ce qu'il faut pour remplir les paquets, qui seront après faits par les paquets seront faits par une équipe de bénévoles et les enfants des potes. Alors, il y a une boîte sur l'étagère, là. Il y en a une au foyer, il y en a une en bas. Et en bas, dans le couloir en bas, il y a des sachets avec de la laine. Alors, si vous avez envie de tricoter, d'écharpes, bonnets, enfin, il y a toutes les indications en bas. Donc, sur une table, dans le couloir en bas, servez-vous de ces sachets de laine. Et pensez aux boîtes. Voilà, paquet de Noël. Il y a quelques semaines, on a prié pour Charline qui se préparait à partir en Guinée mais qui n'avait pas encore son visa. Alors, le visa est arrivé et Charline est partie. Donc, elle est partie mercredi. Elle est bien arrivée à Conakry mercredi soir, attendue et accueillie par la famille Cédric et Gaël Chanson. Ils sont restés encore 2 jours à Conakry pour des questions administratives. Et hier matin, ils sont partis pour Kissidougou. Ils pensaient aller en 2 jours. Finalement, ça allait mieux que prévu. Donc, ils sont arrivés hier soir à Kissidougou, où elle va passer une petite année. Alors, merci de continuer à penser à elle, à son adaptation à la vie africaine. C'est un peu un choc pour elle. Mais ça va très bien se passer, mais... Voilà, continuons de prier, de penser à elle. Et merci pour ceux qui le font. J'avais encore une annonce, mais vendredi, André Girardet a fêté ses 90 ans. Je voulais lui dire un petit mot. Elle a dû partir, elle était attendue pour le repas. Alors, on le fera dimanche prochain. Mais voilà, je crois que c'est tout.
Voilà, c'est terminé. Bon dimanche à tous.